Pourquoi cette suite de sons nous émeut-elle? C'est un mystère encore irrésolu.
La musique fait du bien. C'est le rythme de notre cœur, de notre respiration.
Grâce à la musique, on peut vivre des choses qu'on ne pourrait pas connaître en dehors de l'univers du son.
Elle touche tous les êtres humains.
Le pouvoir de la musique est bien plus grand que nous le pensions. La musique est inscrite en nous, dans notre corps et notre cerveau. Aujourd'hui, les avancées scientifiques soulèvent de nouvelles questions. La musique peut-elle nous rendre plus intelligents? Peut-elle soigner? Est-elle l'apanage de l'homme?
Au début de mes recherches, je pensais que la musique était importante, mais elle l'est encore plus que ce que je pressentais.
Tout est parti de la question : qu'est-ce qui provoque la chair de poule ? Que se passe-t-il dans mon cerveau qui déclenche ce phénomène ? Comment se fait-il qu'une émotion dépende du fait qu'une note soit plus ou moins longue qu'une autre ? À quoi c'est dû ? Pourquoi la musique nous touche-t-elle tant ? Ce qui entraîne une autre question. Comment analyser une chose aussi imprécise qu'une émotion de façon rigoureuse et scientifique ?
Comme Daniel Levitin, un nombre croissant de chercheurs dans diverses disciplines ont décidé d'examiner la musique au microscope. Notre relation avec le son débute très tôt. Le fœtus commence à entendre entre la 17e et la 19e semaine. À ce stade, il baigne déjà dans un monde fait de respiration et de battements de cœur, de rythme et de vibrations.
Tous les sons, en particulier la musique, sont créés par des ondes de pression, des vibrations qui se propagent dans l'air. Pour un physicien, le son est une onde, un déplacement de l'air en vibration.
Autrefois, on croyait qu'il y avait un unique centre de la musique dans le cerveau. Mais on a compris qu'il y en a en fait plusieurs, répartis sur tout le cerveau. Si on pouvait voir toutes les zones du cerveau qui extraient le signal du son pour le transformer en musique, on assisterait à un feu d'artifice d'impulsion. Certaines coordonnées, d'autres non. C'est une sorte de symphonie neurale. Le ton est traité par un ensemble de régions neurales. Le tempo par un autre, l'intensité par un troisième, et le timbre, s'agit-il d'un violon, d'une trompette ou d'une voix humaine, par un quatrième. C'est après que tout est assemblé, mais cet après représente 30 millièmes de seconde. On ne s'en rend même pas compte.
Quand on dit qu'un morceau de musique nous touche ou nous fait vibrer, c'est au sens propre. Le son de ma voix pénètre par votre conduit auditif et fait vibrer votre tympan. C'est très intime. Je vous touche au sens propre du terme. Et quand vous me parlez, vous me touchez de la même façon.
La musique rappelle souvent les battements du cœur humain. Ce lien physique avec la musique a été confirmé par des études qui montrent que le corps est un baromètre de nos émotions.
La musique angoissante provoque une réaction immédiate au niveau de la peau. Ça fait partie du mécanisme de fuite ou de défense. Cette musique angoissante est une métaphore. Elle évoque quelque chose qui nous ferait partir en courant ou nous pousserait à nous battre. Inconsciemment, elle prépare le corps à ses options. On transpire plus, les muscles du ventre se contractent, le pouls et le rythme cardiaque s'accélèrent. Tout ça montre que notre corps réagit très subtilement à la musique. C'est inconscient. Il n'y a aucune part de volonté ou de contrôle là-dedans.
La musique joue de notre corps comme d'un instrument, et le cerveau produit de la musique.
La chair de poule est générée au niveau du cerveau. Ça se passe au niveau de la peau, mais c'est le cerveau qui commande. Le cerveau est un des derniers territoires inconnus. On le connaît relativement mal, mais les neuroscientifiques tentent d'en comprendre le fonctionnement.
Grâce au scanner et à l'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle, on peut désormais voir ce qui se passe quand nous écoutons de la musique et quand nous en jouons.
Comparé au fait de jouer de la musique, il n'y a aucune autre activité qui permette au cerveau de faire autant de choses en même temps, avec une coordination aussi complexe.
Quand on compose des chansons, on ne sait pas d'où elles viennent. C'est plutôt intéressant de découvrir ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là. Ça m'a toujours intrigué.
Oui, c'est un mystère.
Dans les travaux déjà publiés, on étudiait le cerveau d'une personne qui produisait de la musique en solo. Ce qui m'intéresse, c'est de déterminer quelles régions du cerveau sont sollicitées quand on fait de la musique à plusieurs, et dans ce cas précis, à deux. C'est une activité coordonnée et complexe, tant au niveau social que cognitif, qui implique de prendre des décisions en un millième de seconde.
En analysant les scanners, Lawrence Parsons a noté des différences dans l'activité cérébrale de Jarvis Cocker quand il chantait seul et quand il était accompagné par Richard Hawley à la guitare. Pendant le duo, le cerveau du chanteur était plus actif dans les zones de l'expression et de la coordination musicale, ainsi que dans celles de l'interaction cognitive et émotionnelle. Si la musique transforme le cerveau, quelles sont les implications en matière d'éducation ? Un bagage musical peut-il aider les enfants à progresser dans d'autres domaines ?
Ces travaux ont un aspect pratique. La musique peut-elle nous rendre plus intelligents ? Des études très sérieuses semblent montrer que l'apprentissage d'un instrument, pas seulement l'écoute passive de la musique, à un jeune âge, entraîne de réels avantages cognitifs.
Récemment, une étude allemande a montré que l'éducation musicale semblait aider les enfants dans l'apprentissage du langage au-delà de la simple acquisition du vocabulaire. Les sujets retenus pour cette étude étaient les petits chanteurs du chœur Saint-Thomas de Leipzig.
On a demandé à ces enfants de participer à notre étude parce qu'ils reçoivent une éducation musicale très poussée. Ce qui nous intéressait, c'était de voir si les enfants qui possèdent une formation musicale ont des capacités syntaxiques que n'ont pas les enfants qui ne font pas de musique. En comparant les tests des enfants musiciens et de ceux qui ne l'étaient pas, on a constaté que les premiers faisaient preuve d'une meilleure utilisation de la syntaxe musicale et grammaticale. Ces résultats montrent que l'apprentissage d'un instrument peut s'avérer important parce qu'il stimule le processus cognitif dans d'autres domaines que la musique. C'est une des conclusions les plus importantes de nos travaux.
Il s'agit là d'un type d'éducation très particulier qui permet d'acquérir une plus grande intelligence dans certains domaines. L'éducation musicale, entre autres, a des répercussions sur l'anatomie du cerveau. Mais il y a quelques années encore, personne ne s'en doutait.
La voix aussi est un instrument. Le secret n'est pas seulement d'écouter de la musique, mais d'en produire. « De nombreux musiciens sont convaincus qu'une éducation musicale précoce est déterminante. Suite à la réduction du budget pour l'enseignement de la musique en milieu scolaire, Daniel Bernard Roumain a décidé de démarrer un projet dans les écoles primaires de New York. Grâce à cette initiative, certains enfants ont acquis une réelle aisance dans le langage musical. Leurs compositions sont interprétées par les membres de l'orchestre.
J'ai grandi dans une famille où la musique était la forme d'expression la plus naturelle, parce que mes deux parents étaient professeurs de piano. Je voudrais que les enfants aient ce même contact naturel avec la musique, qu'ils puissent en faire et en écouter avec la même facilité.
Daniel Barenboim a fondé des jardins d'enfants musicaux au Moyen-Orient et à Berlin.
Au jardin d'enfants musical, les enfants n'apprennent pas la musique. Ils apprennent par la musique. Ils découvrent les sons, toutes les histoires que la musique peut raconter. Et par ce biais, ils assimilent tout ce qu'un petit apprend au jardin d'enfants. La discipline, le jeu, les rapports affectifs. Ils découvrent cela avec la musique.
On n'en a pas encore la preuve formelle. Mais il semble que si on apprend de bonne heure à jouer d'un instrument, on saura lire plus tôt et plus vite. On sera meilleur en maths et dans diverses matières scolaires. On ne sait pas exactement pourquoi, mais apparemment, apprendre un instrument développe les centres de l'attention dans le gyrus singulaire antérieur. Personne ne prétend que la musique est seule responsable, mais elle semble y contribuer.
Grâce à tous ces travaux sur la musique, les neurosciences sont en train de faire un bond qu'on n'imagine même pas.